RFI, grand reportage.
Partir de son pays est toujours quelque chose de forcé. Vous ne partez pas sans raison. C'est forcément qu'il y a un problème, que vous faites face à une situation vraiment très compliquée.
Depuis des mois, des hommes, des femmes et des enfants rejoignent la Biélorussie pour tenter de passer en Pologne. Prêts à tout pour rejoindre l'Europe, ils bravent le froid, la faim, la soif, la mort même pour échapper à leur pays d'origine. Ils viennent d'Afghanistan, du Liban, de Syrie, mais aussi et surtout de la région autonome du Kurdistan irakien, souvent décrite comme un havre de paix au milieu d'une zone minée par les conflits. Cette province est pourtant désertée par ses habitants depuis des décennies. Irak, aux origines de la crise migratoire, c'est un grand reportage de Lucille Wasserman.
Dans une petite usine à grains au nord de l'Irak, une dizaine de jeunes Kurdes enchaînent les allers-retours, de larges sacs remplis de céréales sur les épaules. Ils les récupèrent à l'arrière d'une camionnette blanche garée à l'entrée de l'établissement, puis viennent déverser leur contenu au fond de broyeurs assourdissants. Cheko, 22 ans, travaille ici depuis plusieurs mois. Ses habits sont sales et troués, son visage dégouline de sueur.
On travaille environ 12 heures par jour ici pour 6-7 euros. C'est épuisant et c'est un travail de chien. Nos poumons sont complètement bloqués à cause de toute la poussière.
L'air est lourd dans cette usine où des dizaines de sacs à grains sont entassés un peu partout. Seul un petit ventilateur encastré dans un mur laisse échapper un rayon de lumière et vient soulever les résidus de grains broyés.
On a une vie insupportable ici, voilà pourquoi on veut partir, pour fuir cette lutte quotidienne. Je préfère essayer de partir et mourir là-bas plutôt que d'être ici, où on ne meurt pas, et c'est pire car on souffre tous les jours de manière répétitive.
Une vie de misère que Cheko a aujourd'hui décidé de fuir. En voyant de nombreux Irakiens partir pour la Biélorussie pour essayer de passer en Pologne, il s'est dit que lui aussi allait tenter sa chance. Il nous emmène chez lui, en périphérie d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, où ses affaires sont déjà prêtes. Elles tiennent toutes dans un petit sac à dos rouge.
Alors voilà, dans mon sac j'ai quelques vêtements usés. Mon père m'a acheté ce t-shirt parce qu'il est chaud pour l'hiver. C'est un bon t-shirt pour ce genre de voyage. Ça c'est des chaussettes, ça c'est mon chargeur.
Tout est en ordre pour partir, y compris le plus important, le visa pour la Biélorussie. Cheko l'a reçu il y a quelques jours après avoir demandé de l'aide sur un groupe Telegram. Il sort son téléphone portable et fait défiler une série de messages.
C'est sur ce genre de groupe que ça se passe. Si tu veux de l'aide de n'importe qui, d'un passeur ou autre, en échange d'argent évidemment, tu demandes ici et quelqu'un va te contacter en privé. Ça marche comme ça.
C'est comme ça que vous avez eu votre visa ?
Oui, il y avait un appel groupé sur cette conversation. J'ai demandé si quelqu'un savait comment avoir un visa. Il y a des gens qui m'ont dit en Iran. D'autres m'ont dit de contacter un type connu pour ça. Ils m'ont dit qu'il était bien et qu'il pouvait m'avoir le visa. Donc je l'ai contacté, je lui ai envoyé une copie de mon passeport. On s'est rencontrés, puis je lui ai donné les documents nécessaires, l'argent. Et voilà, je l'ai reçu en quelques jours. C'est très simple.
Au total, Cheko a payé cet intermédiaire près de 3500 euros pour s'offrir ce visa, ainsi que le vol et quelques nuits d'hôtel. Une somme qu'il a déposée dans une agence bancaire et que cet entremetteur ne pourra retirer que si Cheko atteint la capitale biélorusse. C'est le marché conclu.
J'avais pas d'argent, alors j'ai emprunté près de 3000 euros à ma famille et 500 à mes amis. Ils m'ont dit, si tu les as de nouveau un jour, rends-les, sinon oublie.
Une somme non négligeable pour ce jeune Kurde, tout comme une grande partie des habitants de cette région. La crise économique s'est aggravée ces dernières années au Kurdistan irakien, au point où le salaire moyen est passé en dessous de 200 euros par mois. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont des milliers à fuir aujourd'hui. Mais Cheko mentionne également les dérives autoritaires du pouvoir, de plus en plus dangereuses, dit-il.
Ils ne nous laissent pas vivre tranquillement ici. On ne peut pas s'exprimer ou exprimer son opinion. Tu vis avec la peur qu'ils peuvent te mettre en prison à tout moment et pour n'importe quoi, et même te torturer. Il y a des gens handicapés ou paralysés suite à des tortures dans ce pays. Voilà pourquoi les gens fuient.
Mais sur la route, les risques sont également nombreux. En Biélorussie, les migrants doivent faire face à la faim, la soif et aujourd'hui le froid de l'hiver. Au moins une dizaine y ont déjà perdu la vie. Galan, 25 ans, fait partie de ces défunts. Après 2 semaines d'interminable attente, sa famille a finalement récupéré son corps, rapatrié depuis Minsk. Il l'enterre aujourd'hui dans un cimetière en périphérie d'Erbil. Sa famille est toujours sous le choc. À Souakib, son cousin.
Il a pris la route sans imaginer ce qui allait arriver. Il s'est retrouvé pris au piège entre la Pologne et la Biélorussie. Il était diabétique et c'était son beau-frère qui avait ses médicaments. Ils se sont perdus à un moment. Ça faisait 5 jours qu'il n'avait pas mangé et qu'il n'avait pas son traitement. Voilà pourquoi il est mort.
Asso n'arrive pas à retenir ses larmes. Selon sa famille, Galan est mort sur le sol polonais. Ses amis ont demandé de l'aide aux forces armées du pays qui n'ont rien voulu entendre et les ont repoussés vers la Biélorussie.
Vous êtes en colère contre la Pologne et la Biélorussie ?
Oui, les gardes savaient qu'il était malade.
Sa mère s'effondre sur le tas de pierres qui recouvre désormais son corps. À ses côtés, le frère aîné de la famille regarde dans le vide, perdu dans ses pensées. Ses yeux sont creusés par la fatigue ou la tristesse. Une petite photo en noir et blanc de Galan, en tenue traditionnelle kurde, est accrochée à son manteau noir, au niveau de son cœur.
C'est dur, mais on ne regrette pas la décision qu'il a prise. On ne peut pas, parce qu'il devait partir. Partir de son pays est toujours quelque chose de forcé, vous savez. Vous ne partez pas sans raison. C'est forcément qu'il y a un problème, que vous faites face à une situation vraiment très compliquée. Et le gouvernement ici ignore ses raisons, il ignore son peuple. Et il ne prend pas soin de nous, encore moins de ceux dans le besoin.
Mais son frère aîné n'en veut pas seulement au gouvernement kurde. Il pointe aussi du doigt la Pologne et la Biélorussie qui n'ont rien fait pour aider Galan.
J'ai été choqué. Avec ma famille, on a vu ce jour-là un autre visage de l'Europe. Mon frère était presque inconscient pendant 3 jours. J'ai personnellement appelé toutes les organisations, en Biélorussie et en Pologne, pour qu'ils l'aident. Mais personne n'a rien fait. Ils l'ont abandonné, d'une manière si dictatoriale, si peu éthique, alors qu'ils savaient qu'il était malade. Mais les Polonais l'ont quand même repoussé vers la Biélorussie. C'était si brutal, je n'ai pas les mots.
Une route dangereuse, voire mortelle, que des milliers de Kurdes irakiens ont emprunté ces derniers mois aux côtés de Syriens, Yéménites, Afghans, Libanais. Parmi toutes ces nationalités, ils étaient très certainement majoritaires. Eux, ces Kurdes irakiens originaires d'une région au nord du pays, souvent décrite comme un havre de paix, et où pourtant les conditions de vie font fuir sa population. Mais pourquoi ces Kurdes et non pas aussi les autres Irakiens du pays ? Nous avons posé la question à Mehraj Asembaker, expert de la politique kurde à la Fondation Konrad Adenauer. Il mentionne la crise économique, le manque de liberté d'expression, mais aussi le rôle de la diaspora.
La diaspora kurde en Europe joue un rôle important en guidant ces Kurdes dans la région pour quitter le Kurdistan et pour venir en Europe. Si vous interrogez n'importe qui ici, dans la rue, il vous dira qu'il a au moins un ami cher, un oncle, un cousin qui vit en Europe. Ils sont en contact régulier avec eux. Ces Kurdes en Europe leur parlent de la belle vie là-bas, des opportunités de travail, de l'assurance de santé, d'une garantie d'avenir. Donc je pense qu'ils jouent un rôle central en appelant et en convainquant les gens ici à rejoindre l'Europe.
Une diaspora de surcroît très active sur les réseaux sociaux qui publie énormément de photos de cette Europe mythifiée. C'est sur ces plateformes que les Kurdes irakiens bâtissent leurs rêves et leurs espoirs, explique ce spécialiste.
Les réseaux sociaux, c'est la source principale d'informations pour les gens qui veulent se renseigner sur l'Europe. Et c'est là que les gens s'informent des routes possibles pour rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, ils parlent même d'immigration future. Certains mentionnent l'Ukraine. D'autres disent qu'il faut attendre le printemps car il fait trop froid aujourd'hui. D'autres encore parlent de la Turquie. Donc les réseaux sociaux ont un rôle très très important.
Quotidiennement, c'est le désespoir qui défile sur ces plateformes. Celui provoqué par l'impossibilité de vivre dignement dans leur pays. Un cri de détresse qu'ils ont adressé aux responsables du pays pendant des années, en manifestant ou en alertant des organisations internationales. Mais leur vie n'a pas changé, disent-ils. Comment réagissent alors ces autorités pointées du doigt aujourd'hui ? Le 10 novembre dernier, le porte-parole du gouvernement régional du Kurdistan s'exprimait sur cette crise lors d'une conférence de presse.
Le gouvernement régional est déterminé à résoudre ce problème et travaille à trouver des solutions. Il a commencé à dialoguer avec d'autres parties pour cela. Le gouvernement irakien et le ministère des Affaires étrangères en particulier a commencé à contacter d'autres pays pour résoudre la crise, notamment la Biélorussie.
Un discours sans annonce de mesures concrètes, critiqué par une grande partie de la population et de l'opposition politique. Nous rencontrons Serwan Baban, député indépendant au Parlement kurde. Pour lui, le problème n'est pas pris à bras le corps par le gouvernement.
Le gouvernement kurde n'a pris aucune mesure pour l'instant. Je veux dire logique et pratique pour éviter que les gens ne fuient la région. Les habitants partent parce qu'il n'y a pas un bon accès à l'éducation, pas de système de santé et parce qu'il y a un énorme niveau de déception concernant la gouvernance qui s'est aggravé d'année en année. Mais rien n'est fait. Résultat, les crises s'enchaînent les unes après les autres. Je pense qu'il faut rappeler que les gens quittent cette région depuis près de 30 ans maintenant.
Ce député, installé à l'extrémité d'un bureau de salle de conférence dans une pièce tout juste assez grande pour l'accueillir, c'est de quoi il parle. Lui-même a fui le Kurdistan irakien pour vivre en Allemagne dans le passé. Il est revenu après plus de 25 ans en Europe pour rejoindre l'opposition politique kurde. Aujourd'hui, il pointe donc naturellement du doigt les partis au pouvoir, mais ne les juge pas comme seuls responsables de cette crise.
La Biélorussie est pleinement responsable. Elle exploite l'instabilité ici. Après tout, c'est elle qui donne des visas aux habitants pour qu'ils aillent là-bas. Sa police montre même le chemin vers la forêt à la frontière. C'est aussi de leur faute si cette tragédie et ce drame se déroulent aujourd'hui. Et puis, il y a la Pologne également, un membre de l'Union européenne, qui a signé des documents et des déclarations pour défendre les droits de l'homme. Pourtant, à cause de la politique entre ces deux pays, des citoyens d'autres pays se retrouvent pris au piège, crèvent de faim, des enfants meurent devant eux. Mais ils les laissent dans le froid. Ils ne leur donnent pas de nourriture ou d'informations. Ils ne les laissent pas aller d'un côté ou de l'autre. C'est un crime mondial sur lequel il va falloir enquêter sérieusement.
Un crime dont profitent par ailleurs plusieurs acteurs en dehors du domaine politique. Comme les passeurs, qui demandent des sommes astronomiques à ces migrants désespérés en échange d'informations parfois erronées pour rejoindre l'Europe. Mais ce ne sont pas les seuls. Au Kurdistan irakien, les voyagistes profitent aussi largement de ce trafic juteux. Au vu de la forte demande dans la région, ils n'ont fait qu'augmenter leurs prix depuis le début de la crise. L'un d'eux a accepté de nous rencontrer dans un café sous couvert d'anonymat pour nous expliquer le fonctionnement de ce nouveau marché.
On vend ce qu'on appelle un package, un forfait. Il y a deux mois, c'était environ 2000 euros pour le visa, le vol et l'hôtel. Maintenant, c'est environ 3200 euros avec une garantie d'arriver là-bas. Si le client n'arrive pas à Minsk, on ne reçoit pas l'argent.
Impossible d'obtenir des visas directement en Irak. Alors ces voyagistes travaillent avec d'autres intermédiaires, en Turquie par exemple.
98% des visas ont été délivrés en dehors de l'Irak. Ce n'est ni le consulat à Erbil, ni celui à Bagdad qui les donne, puisqu'ils ont fermé ici. La plupart sont délivrés à Ankara, en Turquie. Nous, on a notre partenaire là-bas, un voyagiste qui a de bons contacts à l'ambassade de Biélorussie.
Au total, chaque client leur rapporte 800 euros. Et ce voyagiste a affirme que certaines agences ont ainsi engrangé des centaines de milliers depuis le début de la crise, sans vouloir donner le chiffre exact de ses propres bénéfices. Gêné, il insiste toutefois sur la légalité de ce marché.
Tout ce qu'on a fait n'a jamais été illégal. Vous obtenez le visa de service consulaire ouvert dans les pays. Il n'y a rien d'illégal à ça. Le visa n'est pas falsifié. Si le gouvernement kurde ou celui de Biélorussie voulait le rendre illégal, ils pourraient, mais ils ne le font pas. Au contraire, la procédure pour l'obtenir a été largement facilitée par la Biélorussie depuis le début de la crise. C'est très clair pour nous. Si la Biélorussie veut arrêter tout ça, elle peut très bien le faire.
Si ce voyagiste ne veut pas témoigner à visage découvert, c'est parce qu'il sait le dossier sensible et la situation explosive. Rien ne l'empêche légalement de continuer ses affaires pour l'instant, dit-il. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir ?
Je ne veux pas d'ennuis et je ne veux pas en attirer à mes collègues. Oui, c'est légal aujourd'hui, mais ici, au Kurdistan, ce que l'on appelle l'état de droit n'existe pas. Il y a des arrestations arbitraires tous les jours. Pour l'instant, rien ne s'est passé, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Si le gouvernement veut rendre ça illégal, je peux avoir des problèmes.
Les affaires ont de toute façon largement diminué, selon lui, depuis que la Turquie et d'autres pays ont interdit leurs vols pour Minsk aux Irakiens. En parallèle, des centaines de migrants sont également rentrés dans leur pays d'origine après avoir essayé, pendant des semaines, voire des mois, de franchir la frontière sans succès. Plus de 1800 Irakiens ont ainsi choisi d'utiliser des vols de rapatriement affrétés par les autorités depuis le début de la crise. Nous avons retrouvé l'un d'eux à Bagdad. Il s'appelle Wissam et a 32 ans. Il nous attend en terrasse d'un café, une casquette bleu marine sur la tête, imprimée d'une patte d'ours blanche. Il fait partie des quelques habitants de l'Irak fédéral, non originaire du Kurdistan, à avoir tenté sa chance, lui aussi.
J'ai décidé de partir au moment des manifestations en 2019. C'était devenu complètement dingue ici, explosif. On regardait les infos, on voyait les gens mourir sous les tirs de grenades lacrymogènes. C'est devenu impossible de vivre ici. Et puis juste après, on a eu le coronavirus. Les gens ont été encore plus abattus, plus dépressifs. À cause de tout ça, les gens ont voulu partir.
À la fin de l'été dernier, Wissam décide donc de partir pour la Biélorussie. Mais une fois sur place, il déchante. L'eau et la nourriture sont difficiles à trouver à la frontière. Plusieurs passeurs lui prennent de l'argent en échange de promesses non tenues. Et les forces de sécurité les repoussent d'un côté ou de l'autre de la frontière.
J'ai essayé tellement de fois de passer de l'autre côté, mais ça n'a été que des échecs. Et pourtant, je suis toujours allé loin. La dernière tentative, j'étais dans une voiture, on a roulé pendant une heure, mais il y avait trop de points de contrôle et on s'est fait prendre par la police polonaise qui nous a ramenés de l'autre côté.
Au total, Wissam aura passé près de 2 mois à la frontière. Il sort son téléphone portable pour nous montrer quelques photos et vidéos prises sur place. On le voit avec d'autres migrants mitouflés dans d'épais manteaux d'hiver au milieu d'une forêt glaciale.
C'était la forêt, ça.
Quelle forêt ? Celle à la frontière ?
Oui, c'est ça.
Lorsqu'on lui demande quand et comment il a pris la décision de revenir en Irak, son point de départ, les yeux de Wissam s'humidifient.
Quand je suis allé en Biélorussie, je pensais vraiment que je pourrais y arriver, que je pourrais avoir un meilleur avenir, une plus belle vie. Mais quand je suis arrivé, la réalité m'a tellement choqué. Le froid, la faim, la soif, tout ça, c'était beaucoup trop dur.
Cet Irakien a tout vendu pour s'offrir ce voyage. Aujourd'hui, il n'a plus de revenus et loge de droite à gauche chez sa famille ou des amis. À la suite de notre entretien, il s'engouffre dans un taxi direction le ministère de l'Immigration, où il espère obtenir un prêt accordé par l'État. Nous l'accompagnons sur le trajet.
Apparemment, le Premier ministre va allouer de l'argent via le ministère de l'Immigration et ils vont nous aider à obtenir ce prêt. On va voir.
Une fois arrivé au ministère, nous ne serons plus autorisés à suivre Wissam. Ce jour-là, il a déposé sa demande, comme des dizaines d'autres rapatriés récemment à Bagdad. Pour eux, c'est un nouveau départ qui les attend, plutôt amer, car ils connaissent le pays dans lequel ils sont rentrés. Rien n'a changé ici pendant leur voyage. Les conditions de vie qu'ils ont tenté de fuir sont toujours les mêmes. Alors nombreux sont ceux qui ne se bercent pas d'illusions et n'attendent en réalité qu'une chose, que de nouvelles routes s'ouvrent vers l'Europe pour retenter leur chance, une fois encore, jusqu'à atteindre leur rêve d'une vie meilleure.
Irak aux origines de la crise migratoire, un grand reportage de Lucille Wasserman, réalisation Donatien Kaye.